Europe Midi, Raphaël Delvolvé.
De retour sur Europe 1, place au débat d'Europe Midi. J'accueille Anne-Laure Blin, députée LR du Maine-et-Loire. Bonjour.
Bonjour.
Et Violette Spielboot, députée Renaissance du Nord. Bonjour.
Bonjour.
Alors, on l'a vu pendant le journal, on l'a entendu plus tôt, la bataille du pouvoir d'achat est loin d'être terminée. C'est vrai que depuis le début des débats, la majorité présidentielle s'accorde souvent avec les Républicains. Ce sont parfois vos alliés, mais aussi pas vos adversaires, mais ils arrivent à vous contraindre, comme sur l'aide exceptionnelle de rentrée, voilà, l'ancien chèque alimentaire, 100 euros de base plus 50 euros par enfant aux foyers les plus modestes, ça concernait à l'origine 8 millions de personnes au total. Et bien les sénateurs, les Républicains, ont remplacé ce dispositif hier par une majoration forfaitaire de la prime d'activité. Ce qui change, c'est que ça s'adresse maintenant non plus à 8 millions de personnes, mais 4 300 000 travailleurs aux revenus modestes. La prime d'activité, c'est un peu plus de 500 euros de base. C'est quelque chose que vous allez essayer de réimposer en deuxième lecture, Violette Spielboot.
On va continuer le dialogue et le travail commun. C'est surtout ça qu'on montre aux Français depuis un peu plus de 3 semaines maintenant. C'est que tous ceux qui prédisaient que nous n'arriverions pas à des accords, à des compromis, que nous n'arriverions pas à voter des lois, eh bien, ils ont déjà la vision d'une avancée qui est très concrète. C'est qu'on a réussi à voter ensemble et avec des compromis la loi pour la protection sanitaire des Français si jamais le virus plus virulent revenait dans les mois à venir. Et puis, on a réussi à voter à l'Assemblée la loi sur le pouvoir d'achat, la loi de finances rectificative. C'est passé au Sénat, ça revient chez nous cet après-midi. Ce soir, il y aura une commission mixte paritaire. Donc, beaucoup d'échanges sur le fond. Moi, je trouve qu'en tant que nouvelle députée, ce sont des moments extrêmement intéressants sur le fond, parce qu'on a les vrais débats sur chacun des sujets, que ce soit sur l'énergie, sur l'aide pour ceux qui bénéficient des minima sociaux, que ce soit pour les travailleurs, et ça sera le débat très certainement ce soir. Donc moi, je m'en réjouis, je trouve ça plutôt positif.
Mais le gouvernement avait beaucoup communiqué hein, au départ, je rappelle, hein, l'intitulé initial, c'était le chèque alimentaire. Si le gouvernement
était opposé,
fait volte-face, ce ne sera pas un échec.
Écoutez, je vais vous prendre l'exemple positif de l'indemnité pour le carburant. On avait une proposition qu'on a mise sur la table, il y a eu des négociations. Aujourd'hui, le compromis, il aboutit à quoi ? À des efforts du gouvernement, des efforts des députés, des efforts des entreprises comme Total Energy, et à un prix qui, pendant 2 mois, sera maintenu à 1,50 euros pour les Françaises et les Français qui utilisent leur véhicule. Donc, moi, ce que je vois, c'est l'objectif final. Tous nos débats, d'abord, je pense que beaucoup de Françaises et Français sont en vacances et ont d'autres préoccupations aujourd'hui que de savoir qui est à l'origine de quel amendement. Eux, ce qu'ils veulent, c'est du concret, du résultat, et dès le mois de septembre, et ça, on y arrive.
Savoir s'ils seront aidés à la rentrée, et 4 millions d'entre eux ne seront finalement pas aidés, en tout cas si ça reste dans ces conditions, donc si on reste sur une majoration forfaitaire de la prime d'activité. C'était quoi l'esprit d'ailleurs de cet amendement ?
En fait, vous avez, dans la présentation de ce dispositif, c'est déjà un peu erroné.
Qu'est-ce qui est erroné ?
Parce qu'en fait, la volonté, notre volonté des Républicains, sénateurs et députés, c'est de parvenir à un texte et de effectivement contraindre le gouvernement à nous entendre sur la valorisation évidente et nécessaire du travail. Donc nous avons, en première lecture à l'Assemblée nationale, mis un certain nombre de dispositifs qui n'étaient pas inclus du tout dans le texte de départ, notamment sur la possibilité de rachat des RTT, la défiscalisation des heures supplémentaires. Ça, c'est une proposition des Républicains qui a été intégrée dans le texte à force de travail. Et puis, les sénateurs, eux aussi, ont fait un travail important, toujours allant dans le même sens de la valorisation du travail. Et la mise en place de cette prime de rentrée pour les bénéficiaires de la prime d'activité, va dans ce sens. C'est-à-dire que là, on a de fait, avec le gouvernement, nous les Républicains, une vraie différence d'appréciation. Nous, ce que nous voulons, c'est créer une vraie différence entre les revenus de l'assistance et les revenus du travail. Le gouvernement a une fâcheuse tendance à aller sur son aile gauche et à toujours renforcer et valoriser les revenus de l'assistance. Nous disons fermement que le travail doit être source de valorisation. Nous devons aider les gens à vivre de leur travail, à vivre de leur salaire, parce qu'ils font des efforts et que c'est le travail qui créera des richesses et qui, de fait, augmentera leur niveau de vie. Mais ce n'est pas en améliorant les revenus de l'assistance, les minima sociaux, que nous arriverons à créer cette incitation au travail et ensuite à aider notamment les entreprises à recruter qui aujourd'hui ont de vraies difficultés.
Violette Spielboot.
Je pense que dans ce que dit Madame Blin, il y a à la fois quelque chose que nous partageons, c'est cette valeur du travail. Et quand Bruno Le Maire a présenté cette loi pouvoir d'achat, il l'a présentée aussi sur des bases solides qui sont que la croissance continue de progresser en France, avec un premier semestre plutôt positif, avec un chômage qui continue de baisser, on va vers le plein emploi, et avec une attractivité de la France qui, pour la troisième année, reste au top en Europe des pays dans lesquels les investisseurs veulent venir. Pourquoi ? Parce qu'on continue de baisser les impôts de production et d'avoir une activité innovante. Tout ça, ça se fait comment ? Avec un sens important des responsabilités, parce que nous, ne l'oublions pas, nous sommes un parti de gouvernement, nous sommes ceux qui aujourd'hui sont responsables du budget de la France, et on a une responsabilité, c'est de ne pas laisser déraper les finances publiques et de ne pas laisser déraper ce projet de loi de finances rectificatives. Donc c'est ça qui sera notre objectif ce soir encore, y compris dans les discussions avec les Républicains.
Mais on
c'est
continue d'en parler juste après une petite pause. Anne-Laure Blin, je vous donne la parole tout de suite, c'est promis juré. Restez avec nous sur Europe 1.
Vous aimez qu'on vous raconte l'histoire.
Et voilà le fort pris d'assaut par l'ennemi.
Vous aimez que l'on vous raconte des histoires.
Voilà comment ça a pu se passer.
Sur Europe 1, tous les après-midi, c'est récit.
14h, 16h, on de la traconte.
Et à la fin, c'est absolument incroyable.
16h, 18h, historiquement vôtre, avec Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Stéphane, vous nous racontez les déboires et folles histoires.
14h, 18h, vos après-midi récits s'écoutent sur Europe 1, sur votre appli et europe1.fr.
Nous, on va chez papy et il y a un trampoline.
Trop de chance. Nous, on en fait ensemble avec mes frères. Et c'est super rigolo, même si on se cogne.
Ouais, bah moi, une fois, avec mes cousins, on était 6 dessus. Et le trampoline, bah il a craqué et on est tous tombés.
Et si nous transmettions la bonne attitude ? Apprenons à nos enfants à jouer en sécurité.
Assurance Prévention, une association de France Assureurs. Ce mois-ci, dans votre magazine Pleine Vie. Santé, toutes les clés de nos experts pour contrôler votre tension. Arthrose, découvrez 5 cures antidouleurs sur mesure et ciblées pour gagner en mobilité. Impôts, comment ajuster votre prélèvement à la source. Tourisme, cap sur 10 des plus beaux villages français. Et exclusif en kiosque, votre agenda Pleine Vie 2023, après-midi.
Cet hiver, avec Ponant, prenez le temps. Le temps d'explorer les îles paradisiaques du bout du monde. Seychelles, Caraïbes, Indonésie, Polynésie. Entre nature sauvage et culture traditionnelle, des explorations tropicales rares et authentiques à bord de yachts à taille humaine. Réservez dès maintenant votre croisière Ponant au 04 91 300 800 sur ponant.com ou dans votre agence de voyage. Ponant, s'éveiller au monde.
Europe Midi. Raphaël Delvolvé.
Anne-Laure, députée Les Républicains du Maine-et-Loire, et Violette Spielboot, députée Renaissance du Nord, sont avec nous pour le débat du jour. Il reprend dans quelques instants, mais juste avant le rappel de l'essentiel de l'actualité avec Guillaume Bur.
Bouteille d'eau, coin d'ombre de rigueur aujourd'hui avec 26 départements allant des Pyrénées jusqu'en Alsace en vigilance orange canicule. La vague de chaleur touche donc les trois quarts du pays avec des températures comprises entre 35 et 39 degrés et des pointes de 40 degrés attendues près de la Méditerranée. Conséquence de cette chaleur, les incendies se multiplient. Un est en cours d'ailleurs dans les Alpes de Haute-Provence et les flammes ont déjà parcouru 210 hectares de végétation. Le feu ne progresse pratiquement plus mais les pompiers restent mobilisés. Un village a dû être évacué de manière préventive. Avant les vacances, la première ministre convie les 41 membres du gouvernement ainsi que leurs conjoints conjointes dans les jardins de Matignon ce soir pour un dîner. Elisabeth Borne qui poursuit son travail d'animation du collectif. Néanmoins, les ministres sont tenus de rester à Paris jusqu'à dimanche pour participer aux travaux parlementaires jusqu'à la fin de la session. La présidente de la Chambre des représentants américaine Nancy Pelosi a quitté Taïwan au terme d'une visite à la fois historique mais également controversée. Pékin menace et annonce la mise en place d'exercices militaires. Enfin, une vingtaine d'experts turcs, russes, ukrainiens et délégués des Nations Unies ont inspecté au large d'Istanbul le premier chargement de céréales exporté par l'Ukraine depuis le début de la guerre. Le Razzoni, qui a quitté lundi le port d'Odessa avec 26 000 tonnes de maïs, va pouvoir donc reprendre son voyage direction Tripoli, au Liban.
Merci beaucoup Guillaume Buon qui vous informe, vous accompagne jusqu'à 17h sur Europe 1.
Europe 1.
On reprend notre conversation sur le projet de loi de finances rectificative compris dans le paquet pouvoir d'achat. Les sénateurs, les Républicains de droite donc ont réussi à contraindre hier le gouvernement qui souhaitait instaurer un ancien chèque alimentaire, une aide exceptionnelle pour la rentrée. Elle sera remplacée par en fait une majoration forfaitaire de la prime d'activité. Ça ne s'adresse plus à 8 millions de personnes de foyers modestes, mais 4 300 000 à peu près travailleurs. Anne-Laure Blin, la droite sera force de contrainte et non pas de compromis. Si j'ai bien compris.
La droite travaille et la droite formule des propositions pour les Français. Les sénateurs l'ont fait évidemment hier soir. Nous nous y sommes engagés durant les législatives. Nous sommes au travail depuis la reprise de la nouvelle législature. Ce qui est certain, c'est que notre angle de bataille pour permettre aux Français d'avoir un niveau de vie qui s'améliore, c'est de leur permettre de vivre dignement de leur travail. C'est une différence fondamentale avec le gouvernement. Et d'ailleurs, on le voit encore hier soir, parce que ce fameux... C'est très important, parce que le gouvernement, hier, a émis un avis défavorable à cet amendement présenté par les Républicains et voté aussi par les centristes. Et les députés, les sénateurs de gauche et de la majorité, donc les députés, les sénateurs, pardon, du gouvernement, alliés du gouvernement, ont voté contre cette proposition. Donc, il y a bien une vraie différence fondamentale de perspective et de volonté pour aider les Français. Il y a un certain nombre de propositions qui ont été formulées par le gouvernement, notamment la mise en place des chèques totalement discrétionnaires, des chèques totalement arbitraires, qui essaient de choisir un public non identifié. Nous, ce que nous disons, c'est que nous voulons augmenter le niveau de vie et permettre, encore une fois, aux Français de vivre de leur travail, mais à tous les Français. C'est pour ça, notamment, que nous voulons clairement une baisse des taxes, que nous y sommes parvenus en travaillant fermement avec le gouvernement, puisque nous l'avons contraint, comme vous le dites, à donner une marge de manœuvre à tous les automobilistes de 30 centimes. Nous avons aussi contraint un grand pétrolier Total à mettre en place une diminution de 20 centimes du prix de l'essence à la pompe. Donc, il y a un vrai travail de fond pour avoir des bénéfices pour les Français. Et ça, c'est fondamental. Mais c'est vraiment une ligne de conduite que nous ne partageons pas avec le gouvernement. Et c'est pour ça que nous obtenons aujourd'hui ces améliorations, encore une fois, sur les RTT, sur les heures défiscalisées. Et c'est vraiment la valorisation du travail qui est notre ligne politique.
Pourquoi les sénateurs favorables au gouvernement, et ils ne sont pas majoritaires au Sénat, ont voté contre l'amendement des Républicains?
Ça montre, alors je n'étais pas au Sénat hier soir, c'était une des nuits dans lesquelles on ne travaillait pas.
Mais vous devez avoir une idée.
Mais en tout cas, cela montre qu'au sein de chacun des groupes, il y a d'abord une liberté de parole et des différences d'appréciation de la meilleure façon d'arriver à augmenter le pouvoir d'achat des Français. Il y a beaucoup de sujets sur lesquels on se rejoint. Je pense que vous avez cité la baisse des impôts. Quand on voit que la suppression de la taxe de la redevance audiovisuelle a été actée dans cette loi, 138 euros pour chaque foyer, 88 euros en Outre-mer, ce sont des choses qui sont concrètes. Moi, c'est ça que je retiens. Après, dans la paternité de tel ou tel amendement, on voit bien que dans le jeu législatif que moi, je découvre en tant que nouvelle députée, il y a aussi ces amendements qui sont identiques pour certains groupes qui les reprennent ou à un mot près. L'objectif pour moi n'est pas d'avoir la paternité, mais d'avoir du résultat et de l'efficacité. Il y a des mesures, par exemple, comme l'aide aux petites stations essence dans les zones rurales qui viennent des LR et que je trouve très positive. Je pense qu'il y a des élus qui se posent des questions sur la défiscalisation des heures supplémentaires. Nous avons voté l'augmentation de ce plafond à 7500 euros pour la défiscalisation des heures supplémentaires.
Qui sera pérennisé également
au-delà de
2023.
Certains de députés avec lesquels nous avons discuté ce matin avec différents ministres disent attention, il faudra qu'on fasse quand même attention à ce que ça ne remplace pas des embauches, parce que notre objectif principal,
non, ça, c'est la gauche qui pense ça.
C'est le
pas
plein emploi. Je ne vous parle pas de la gauche ou de la droite, je vous parle de mes collègues de la majorité présidentielle.
Oui,
ce que je veux dire, c'est qu'au sein de notre groupe, nous avons des discussions qui sont saines, sereines, sur des différences d'appréciation, par exemple sur la façon d'arriver au plein emploi. Nous allons aussi parler à la rentrée des contrats d'apprentissage, de la baisse de l'aide de France Compétences pour certaines filières qui ont été mises en accord de branche. Tous ces sujets-là, eh bien, moi je trouve que c'est très sain d'avoir des débats. On nous a reproché au précédent mandat de voter sans réfléchir. Eh bien là, c'est clair, nous avons ces échanges et surtout, ce que nous arrivons à obtenir, c'est des accords et des compromis à chaque fois, puisque depuis 3 semaines, on avance et que si tout va bien, dans un jour ou deux, nous aurons une loi pouvoir d'achat et une loi de projet, un projet de loi finances rectificatives qui seront votés.
Ils sont pratiques, hein, les parlementaires, les Républicains aussi, hein, parce qu'ils vous aident à détricoter les 35 heures. Bruno Retailleau, le chef des sénateurs LR, se félicite d'arrêter un effet délétère des 35 heures. Vous savez, c'est la fameuse monétisation des RTT. Pratique, non ?
Pas nous. La monétisation des RTT est un des moyens pour des personnes qui travaillent beaucoup et qui ne souhaitent pas prendre tous ces RTT, de pouvoir les monétiser. Moi, je trouve que là, à nouveau, c'est une façon de valoriser le travail dans la politique générale que porte Bruno Le Maire. Je n'y vois absolument pas une façon de détricoter les 35 heures, parce que le principe général reste les 35 heures.
C'est et on sait bien que
c'est au volontariat des salariés.
Et on
le sait quand on travaille dans une grande entreprise, comme c'était mon cas précédemment, que ce sera des cas qui sont à la marge. C'est un moyen, une souplesse supplémentaire qui est offerte aux salariés sur la base du volontariat.
Anne Lorblin.
On voit bien, parce que dit ma collègue de la majorité, la différence vraiment de fond et la différence idéologique. C'est-à-dire que là où la gauche, effectivement, défend cette idée du partage du travail, ce qui a donné naissance aux 35 heures, nous défendons la valorisation du travail et la multiplication du travail.
Nous défendons le plein emploi. Et je pense que nous sommes les mieux pour prouver que nous avançons vers ce plein emploi. Nous sommes de façon historique depuis 40 ans au chômage historique.
Mais ce sont des répétitions.
Le taux de chômage est autour de 7% aujourd'hui.
Il a augmenté ces dernières semaines.
7% c'est pas le plein emploi non plus.
Mais on y arrive tout doucement. À 3, 4, 5% on y arrive.
Le plein emploi, c'est 0 chômeur. Voilà. Il ne faut pas se gausser d'avoir des résultats.
Oui,
mais si on veut véritablement être...
Je pense que là, il faut être réaliste.
Oui, mais sauf qu'on doit viser le 0%. Et on doit viser le fait qu'aujourd'hui, tous les Français qui peuvent être en mesure de travailler, qui doivent travailler. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc,
beaucoup aujourd'hui se forment et souhaitent pouvoir travailler. Donc, je pense que si vous continuez...
De s'auto-satisfaire, il y a une vraie différence profonde. Moi, j'entends les discussions, il n'y a pas de problème. Moi, je suis une femme de droite. Voilà. Je pense que la valorisation du travail, c'est ce qui, aujourd'hui, indéniablement, crée des richesses.
Ben vous pensez comme notre ministre de l'économie, la valorisation du travail.
Mais le problème,
nous avons
c'est
voté les heures supplémentaires.
Mais c'est vous qui votez avec
voté
le gouvernement.
RTT et nous allons vers le plein emploi.
Non, mais c'est ce que je dis. Si c'est vous qui votez avec le gouvernement, c'est là où c'est problématique. Mm-hmm. C'est l'art du en même temps de la majorité. Donc oui, moi je partage, effectivement, nous avons une ligne de députés et sénateurs. On doit détricoter, effectivement, les 35 heures. Les 35 heures ont été nocives dans la plupart des entreprises.
Enfin bon.
Et aujourd'hui, on voit on se
les Républicains
avec...
qui aujourd'hui sont très combatif, puisqu'il y a une nuit
toujours,
au Sénat, mais qui,
été
au dernier mandat, Gérard Larcher, je crois, a réaffirmé un pourcentage très élevé des lois qu'il a votées comme
moi,
la majorité. Aujourd'hui, dans ce projet de loi pouvoir d'achat, on a de la même façon des élus de gauche et des droites qui votent nos propositions. Donc je crois qu'on a un seul objectif, c'est d'aller vers le pouvoir d'achat des Français et on y arrive.
Oui, mais ça, c'est des punchlines. Moi, ce que je vous dis, c'est je suis une femme de droite, de terrain, je suis députée. Vous pouvez me citer n'importe quelle autre personnalité de droite, peu importe. Moi, ce que je vois, c'est ce que j'entends. C'est ce que les chefs d'entreprise me disent. C'est
quoi les chefs d'entreprise sur ma circonscription.
Ils ne trouvent pas de personnel et ils ont des lourdeurs et des taxes, des impôts trop élevés pour embaucher. C'est ça
alors,
la réalité aujourd'hui du terrain.
Nous sommes le gouvernement qui a le plus...
Arrêtez de vous auto-satisfaire. Faisons des propositions et c'est ça qu'il faut qu'on arrive à porter. Mais après, vous pouvez penser différemment.
Je pense que vous êtes sur une circonscription en France, je suis sur une autre circonscription, celle de Marc-en-Barœul, Bondu, Mouveau, Tourcoing et Lille, qui est une terre de chefs d'entreprise, de grands entrepreneurs et d'énormément de TPE-PME. Et eux, ce qu'ils me disent, c'est qu'Emmanuel Macron est le premier président de la République qui a autant baisser les impôts de production, même si on est bien d'accord sur un point, c'est qu'il reste encore trop élevé. Sur le dernier quinquennat, c'est moins 52 milliards d'euros d'impôts de production. Donc on retrouve cette place dans la compétitivité internationale. C'est le pays qui est aujourd'hui le plus attractif en Europe, et ça non plus, vous ne pouvez pas le contester. Et c'est le taux de chômage le plus bas depuis plus de 15 ans. En France et depuis plus de 40 ans pour les jeunes. Donc on continue. Nous sommes aujourd'hui à mi-mandat d'Emmanuel Macron. Nous sommes aujourd'hui.
En même temps, on n'entend plus rien.
Nous sommes aujourd'hui à mi-mandat d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron a gouverné pendant 5 ans, a présidé notre pays pendant 5 ans. Il vient d'être réélu. Les Français lui ont renouvelé sa confiance. Donc nous sommes au milieu d'un travail qui est cohérent, qui est long et qui est complexe et qui transforme complètement la position de la France dans l'économie européenne et mondiale. Oui, et donc quand on voit aujourd'hui les résultats, eh bien, moi je suis heureuse que les Français, que ce soit aux deux tours des élections présidentielles comme aux deux tours des élections législatives, aient fait confiance et redonné une majorité à Emmanuel Macron. Elle est certes relative, nous travaillons ensemble, mais donner aujourd'hui l'impression que tout nous oppose, ne serait pas franc par rapport au projet de loi que vous venez de voter, que vous êtes en train de voter avec nous.
Ah non, mais là n'est pas la question, c'est qu'il faut simplement avoir la victoire modeste. Pardon, mais il n'y a pas de victoire d'Emmanuel Macron.
J'ai la victoire modeste, majorité
il a remporté les élections présidentielles.
C'est quand même la première fois.
Les élections législatives, mais c'est la première fois qu'un président de la République réélu n'obtient pas une majorité absolue. Voilà, c'est la première fois.
Donc qu'un président de la République est réélu sans cohabitation.
Très modeste. Je suis députée, j'ai été réélue, j'entends ce que me dit le terrain, j'entends que la politique d'Emmanuel Macron ne séduit pas sur le terrain, parce que s'il y a des choses qui vont dans le bon sens, et c'est ce que nous avons toujours dit, j'ai voté un certain nombre de dispositions qui me semblent aller dans le bon sens, mais je critique aussi, et c'est mon droit de
bien
parlementaire,
sûr, c'est votre droit, c'est le débat
de critiquer
parlementaire
les dispositions
avons.
Qui ne vont pas dans le bon sens. Et aujourd'hui, je trouve que malheureusement, le gouvernement va beaucoup trop dans le sens du soutien à l'assistance, plus qu'à la valorisation du travail.
Revalorisation de 4% des minima sociaux, c'est quand même aujourd'hui un minimum face à l'inflation, même si elle est contenue. Vous êtes d'accord avec nous là-dessus?
Non, mais vous ne baissez pas les taxes. Et donc, voilà, on n'est pas d'accord. Mais c'est ce qui fait la richesse des débats dont vous parlez, et c'est ce qui fait aussi la plus-value des Républicains.
Le gouvernement gouverne, les oppositions s'opposent. Est-ce que c'est stimulant? Est-ce que c'est fatigant? On va en parler dans quelques instants, parce que vous allez être en vacances dimanche. J'aimerais qu'on fasse un petit bilan de ces premières semaines dans cette législature si particulière, si inédite dans l'histoire de la Ve République. A tout de suite sur Europe 1.
Nous sommes 270 millions dans le monde à avoir la même passion, le football. Pour la reprise des championnats de France, rejoignez le meilleur club radio, Europe 1 Sport.
Europe 1 Sport, avec Virginie Fulpin.
On se retrouve tous les week-ends pour suivre, commenter et débattre de notre passion. Avec Jacques Vendroux et toute l'équipe des sports, nous reprenons la route des stades, des tribunes et de tout ce qui tourne autour de la planète football.
Et le but !
Europe 1 Sport.
Rendez-vous pour la nouvelle saison Europe 1 Sport vendredi à partir de 20h.
L'été prochain, avec Ponant, prenez le temps. Le temps d'explorer les terres reculées du Grand Nord Arctique. Glaciers millénaires, fjords majestueux, faune emblématique. Une expédition dans le sillage des grands explorateurs, rares et authentiques, à bord d'un yacht à taille humaine. Réservez dès maintenant votre croisière Ponant au 04 91 300 800 sur ponant.com ou dans votre agence de voyage. Ponant, s'éveiller au monde.
Cabinet d'architecte, bonjour. Non, désolé, mais on ne peut pas prendre de nouveaux chantiers pour le moment.
Les projets d'éco-construction se bousculent dans l'agence de Patricia, et sans une nouvelle équipe d'architectes spécialisés, il va falloir trouver un plan B. Indeed peut l'aider à embaucher rapidement des profils de qualité.
J'ai besoin d'Indeed.
Les questions de présélection d'Indeed vous permettent d'affiner votre recherche de candidats et de consulter les candidatures qui correspondent le plus à votre recherche. Rendez-vous sur indeed.com/offre et profitez de 100€ offerts pour votre première offre sponsorisée. Offre soumise à condition.
Carrefour. Pour bien préparer la rentrée, il faut avoir de beaux cahiers. Eh bien, jusqu'à lundi, avec 40% de remise immédiate, le lot de 5 grands cahiers grands carreaux de 96 pages Clairefontaine est à 4,05€ au lieu de 6,75€ chez Carrefour, Carrefour Market et Landrive. 81 centimes le cahier seulement. C'est ça, une rentrée à prix qui déchire. Carrefour.
24 x 32 cm, détail et magasin participant sur carrefour.fr.
Europe Midi, Raphaël Delvolvé.
Le débat d'Europe Midi, nous sommes avec Anne-Laure Blin, députée Les Républicains du Maine-et-Loire, et Violette Spielboot, députée Renaissance du Nord. Alors, ça y est, dimanche, c'est les vacances. Elles vont faire du bien, celles-là. Hein, vous avez... Comment vous avez vécu ces premières semaines à l'Assemblée nationale? Tiens, Violette Spielboot, vous, c'est votre tout premier mandat. Hein?
Oui, oui, tout à fait.
Alors, comment c'est stimulant? Fatigant.
Premier mandat de député, premier mois, effectivement, dans l'hémicycle. C'était une expérience extrêmement enrichissante et stimulante. Pourquoi? Parce qu'on a été immédiatement dans le vote d'une loi d'urgence avec énormément de contenu, que ce soit sur l'énergie, sur la baisse des impôts, sur le maintien du budget de l'État, sur la revalorisation des fonctionnaires. Donc, beaucoup de sujets à appréhender en même temps et des débats de fond, comme celui que nous venons d'avoir avec Madame Blin, avec des oppositions, opposition républicaine dans le respect, avec des échanges parfois un peu musclés, mais dans le respect. Et puis, le vrai visage de l'extrême droite, de l'extrême gauche, qui sont apparus progressivement au fil des semaines dans cet hémicycle. Donc, pour moi, c'est une expérience qui montre que nous aurons ce type de débat à la rentrée au mois d'octobre. Un peu de repos, de la présence en circonscription, mais beaucoup de motivation, parce qu'on est là, finalement, le cœur du débat démocratique. L'Assemblée nationale est le lieu où, en partenariat avec le gouvernement, nous allons pouvoir vraiment mettre en place des actions concrètes pour les Français.
Anne Blin, comment ça s'est passé ces dernières semaines? Vous, ce n'est pas votre premier mandat, enfin, c'est un peu particulier.
Oui, voilà, j'ai été élue à l'occasion d'une partielle.
Voilà, lors de la dernière législature.
C'est ces premières semaines, je dirais, je les qualifierais d'insatisfaisantes, sincèrement, et très frustrantes. C'est-à-dire que j'ai eu la perspective, la perception...
Vous n'avez pas eu le sentiment que le pouvoir est revenu aux parlementaires?
Si, le pouvoir est revenu au Parlement. Mais je n'ai pas eu cette perception que la majorité et que le gouvernement avaient pris conscience de ce qui se passe dans le pays. Il y a une campagne présidentielle qui s'est déroulée, une campagne législative, avec des Français qui nous ont parlé, qu'on a écoutés. J'espère que certains les ont même entendus. Et finalement, on arrive avec une même manière de travailler. Un gouvernement qui vient poser la veille d'une discussion à l'Assemblée un texte de loi qu'il annonçait depuis des semaines, mais qu'on a eu l'occasion de consulter qu'à l'issue du Conseil des ministres en quelques heures. Donc, avec un temps de travail très précipité, je crois qu'il n'a pas pris la mesure. Il n'a pas pris la mesure parce que à l'Assemblée, ce qui s'est passé, c'est quand même assez pathétique, il faut le dire. Les Français ne comprennent pas ce qui se passe à l'Assemblée.
En tout cas, ils comprennent qu'on a une loi d'urgence à voter,
mais
non, madame,
mais
vous parlez de précipitation.
Parce
on
que
est bien
vous
tous
êtes
d'accord
dans les éléments
qu'il fallait
de langage,
la voter là, maintenant, avant
non,
les départs
parce que
en vacances,
moi, vous
pour
savez
que ce soit opérationnel
mais
au mois de septembre.
Ça, c'est peut-être votre lecture de nouvelles députées, mais moi, je vous dis qu'on n'a pas siégé depuis février. L'urgence, elle était là, depuis février. Le gouvernement a décidé, pour le mandat précédent, de suspendre. Il n'était pas obligé de suspendre. On pouvait très bien siégé avant.
Alors d'un côté vous dites on n'écoute pas les Français et de l'autre côté on écoute les Français, ils veulent
pas
donner
dit qu'on les écoutait
une
pas.
Nouvelle
J'espère
majorité relative à Emmanuel Macron.
Et entendu.
Voilà.
Mais Emmanuel Macron était déjà président avec une majorité, donc on aurait pu poursuivre le travail sous la précédente législature. Moi c'est ce que j'ai toujours défendu et c'est ce que j'ai toujours dit parce que je n'ai jamais compris pourquoi on a suspendu au mois de février. Donc il y a une urgence, mais l'urgence elle a été annoncée pendant la campagne législative d'un texte de loi qui serait avec des dispositifs ici ou là. D'ailleurs, les candidats de la majorité présidentielle ont été élus sur des chèques alimentaires, des chèques carburants, etc., qui ne seront pas mis en place, donc, puisque le travail avec la droite s'est fait. Donc c'est vraiment des semaines de travail très insatisfaisantes, parce que, bien sûr, il faut répondre aux Français, c'est notre combat, c'est notre engagement très ferme, mais je crois aussi qu'il faut leur donner la confiance en leurs responsables politiques. Et ce petit spectacle malsain d'une Assemblée nationale nocturne, à plusieurs reprises, avec des vociférations ici ou là, ne donne pas la bonne image de la confiance qu'on accorde à ces responsables
vociférations,
politiques.
Vociférations, chahut, ouais, après oui, on entend beaucoup ces mots-là, c'est vrai.
Alors c'est vrai, hein, y a eu des moments assez difficiles, assez violents, hein, on y reviendra, mais en tout cas, moi j'ai pas du tout cette lecture-là, parce que quand je suis revenue en circonscription, alors c'était plutôt les trois premiers week-ends, là ça a été difficile la dernière semaine avec les séances de nuit, en discutant avec les citoyens sur ma circonscription, j'ai plutôt au contraire ressenti de l'encouragement et de la fierté pour le député qui aujourd'hui est au cœur de ce débat démocratique et qui a la responsabilité d'agir vite pour les Français. Moi, j'ai ressenti la cohérence entre ce qu'il y a été fait les cinq dernières années, la nécessité de suspendre pendant ce temps d'élection le travail parlementaire parce que nous avons aujourd'hui une majorité relative qui change la donne et qui impose au gouvernement et aux parlementaires de la majorité que nous sommes à une humilité, à une écoute, à un travail commun. Et pour moi, ce mois-là a démontré non seulement que nous savions faire les compromis, que nous savions tendre la main, que Bruno Le Maire, par exemple, ou Gérald Darmanin, quand ils interviennent sur des sujets à l'Assemblée, savent échanger de façon extrêmement respectueuse.
Ça, évidemment, on ne peut pas leur reprocher, ils en viennent.
Oui, mais bon, je cite ces deux ministres-là parce qu'ils ont été beaucoup là, soit sur la loi pouvoir d'achat, sur les questions au gouvernement, parce qu'on a beaucoup de questions en ce moment sur les sujets d'immigration qui reviendront à la rentrée, et qui savent, à un moment, dialoguer avec l'ensemble des députés
et
aussi prendre leurs responsabilités, comme Éric Dupond-Moretti l'a fait hier dans l'Assemblée, en s'adressant à l'extrême droite et à l'extrême gauche.
Alors, vous étiez là, évidemment, à ce moment-là, c'était pendant les questions au gouvernement, les les députés NUP ont quitté l'hémicycle. Ils n'ont pas apprécié les insinuations d'Éric Dupond-Moretti, on peut le dire comme ça, le ministre de la Justice, qui dénonçait cette proposition de loi soutenue par un député NUP PCF, le Parti communiste français, c'est Jean-Paul Lecoq. Donc cette proposition de loi, on l'a dit hein, pendant le journal, visait à condamner le régime d'apartheid d'Israël. Vous auriez fait pareil que le ministre de la Justice, Anne-Laure Blin, si vous étiez à sa place?
Vous auriez condamné. Je ne suis pas à la place d'Éric Dupond-Moretti.
Quand vous avez vu cette proposition de loi à l'ordre du jour...
Non, mais ce qui est certain, c'est que l'extrême gauche qui est aujourd'hui dans l'hémicycle, qui est la France insoumise, avec ses alliés du Parti communiste, oui, sont des islamo-gauchistes. C'est la vérité. Ils ont du mal à l'assumer. Mais c'est la vérité. Ils sont véritablement les pourfendeurs de cette idéologie de déconstruction de nos rapports au christianisme, de nos rapports à la société, à nos valeurs. Voilà. C'est l'extrême gauche dans toute sa splendeur. Donc voilà, effectivement, ils le vivent mal parce qu'ils le nient. Mais c'est la dure réalité de ce qu'est l'extrême gauche aujourd'hui dans notre pays, qui malheureusement a eu aujourd'hui beaucoup plus d'élus qu'elle n'en avait par le passé, et avance vraiment, et c'est ce dont je parlais tout à l'heure, les vociférations, les déconstructions, viennent notamment de l'extrême gauche, qui n'est là que pour tout déconstruire et ne pas avancer. Et c'est une différence fondamentale. Alors voilà, je suis bien sûr pas une femme d'extrême gauche, vous l'aurez bien compris, mais ce qui est sûr, c'est qu'ils vociférèrent beaucoup, mais ils ne font rien avancer. Je vous invite à regarder dans les dispositifs...
Alors ils en ont marre, hein, les députés nubes, qu'on leur reproche à chaque fois de provoquer le chahut. Adrien Quatennens
était chez nous ce matin.
Alors, il nous a annoncé déjà avoir retiré sa signature à la proposition de résolution. Et il a également répondu à ses critiques.
Ça fait 3 semaines qu'on entend parler de l'Assemblée nationale, cours de récréation, etc. Je m'arrêtais un instant là-dessus parce que c'est pas supportable. C'est-à-dire que non, en fait, l'Assemblée nationale n'est pas une cour de récréation. Il y a des débats. Parfois, en effet, ils sont vifs, ils peuvent être piquants. Mais enfin, regardez ce qui se passe dans certaines assemblées chez nos voisins européens. Il y a plus de chahut et de bazar, comme j'entends dire, que dans l'Assemblée nationale. Il faut faire attention parce que, après, voyez, on s'intéresse davantage à la forme qu'au fond.
Il
y a deux choses, il y a la forme et le fond. Sur le plan de la forme, on a vu effectivement progressivement des députés de la NUPES d'abord mépriser finalement les codes et les règles de l'Assemblée en interpellant régulièrement, en insultant, en provoquant, en créant une hystérie qu'ils veulent créer hein, dans notre hémicycle pour créer ce bazar dont vous parliez. Bon, ça c'était effectivement ce qu'on peut qualifier d'une cour de récréation et ce que nous estimons tout à fait illégitime pour des représentants de la nation qui votent les lois pour les Français. Et puis, il y a le fond. Et le fond, c'est beaucoup plus grave. Appeler à voter cette résolution qui parle d'apartheid en Israël, c'est une provocation antisémite explicite dont Éric Dupond-Moretti a bien eu raison de reposer le questionnement dans l'hémicycle. Et puis, on a eu aussi ce communiqué de presse de David Guiraud, juste après, quelques jours après, condamnant la décision d'expulsion de l'imam Iqüissen par Gérald Darmanin parce que il considère qu'il n'est pas sexiste, qu'il n'est pas homophobe, qu'il n'est pas islamiste et qu'il n'appelle pas à la haine. Enfin, quand on parle de d'hystérie, on parle de provocation profonde de nos valeurs républicaines au sein de l'hémicycle par des députés de l'ANUPS. Et on a vu d'ailleurs hier, au moment où il y a eu tout ce débat, à la fois Éric Dupond-Moretti qui a rappelé aussi les positions et les dérapages du Rassemblement National, donc des deux extrêmes, et on a vu certains députés de l'ANUPS qui hésitaient à se lever, et certains sont même restés dans l'hémicycle et ont même applaudi parce qu'ils ne partageaient pas ces positions extrémistes et antisémites d'une grande partie des députés NUPS.
Anne-Laure Blin, vous avez fait les grands yeux quand vous avez entendu ce qu'a dit Adrien Quatennens sur notre antenne ce matin.
Parce qu'en fait, ils considèrent l'Assemblée nationale comme une assemblée générale. Voilà, on n'est pas à la fac. Alors, il y a des étudiants, des anciens étudiants qui ont été élus députés, mais ce n'est pas une assemblée générale de l'université. Certains en sont issus, mais il faut qu'ils respectent des codes. Et quand j'entends ma collègue, là aussi, ça me fait un peu tiquer, parce que, oui, et comme je l'ai dit, ils sont là pour détruire et déconstruire. Mais face à ça, qu'est-ce qu'on fait? On fait preuve d'autorité. Voilà, Éric Ciotti, notamment, a demandé à la présidence de l'Assemblée nationale à ce qu'on restaure le port de la cravate. Parce que, vestimentairement parlant, les députés de la NUP s'arrogent le droit de s'habiller un peu comme ils le souhaitent. Sauf que l'institution mérite le respect. Donc, Moi, j'invite ma collègue de la majorité, mais laissez-moi finir.
C'est exprimé là-dessus.
Oui, mais c'est exprimé en disant, moi, je ne veux pas faire la police. Oui, je ne veux pas faire la police vestimentaire.
Individuelle. Sauf que vous avez la présidence.
Vous avez la présidence de l'Assemblée nationale, un certain nombre de vice-présidents. Pendant les séances, il doit y avoir un rappel de l'autorité. Mmh. Et je pense aussi que la présidence de l'Assemblée nationale doit rappeler aux députés la manière dont ils ont de s'habiller.
Eh bien, parce que ce n'est pas la position qui a été prise, ça a été une responsabilisation individuelle.
Il y a des vraies différences entre vous et nous.
Et je pense qu'il ne faut pas caricaturer ce sujet-là.
On s'habille comme on veut à l'Assemblée nationale.
Mais très sérieusement, je pense qu'aujourd'hui, les choses sont un peu rentrées dans l'ordre globalement. Et que l'important pour la présidente de l'Assemblée nationale, elle l'a très clairement exprimé, c'est la qualité des débats de fond, le respect des règles de l'Assemblée nationale et du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Et donc, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui insulte, quelqu'un qui provoque, quelqu'un qui interpelle personnellement un autre député alors qu'il doit parler de l'amendement, eh bien, il y a un rappel au règlement. Donc, moi, je pense que c'est ça qui est important et qu'il puisse progressivement y avoir des députés qui s'habituent à fonctionner avec les sanctions de l'institution.
Anne-Laure Blin, députée LR Maine-et-Loire, Violette Spielboot, députée Renaissance du Nord, étaient nos invités dans le débat d'Europe Midi. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous revenez quand vous voulez, bien sûr. Vous allez prendre des vacances entre-temps. Ça s'annonce long, cette législature, et elle ne fait que commencer. À tout à l'heure sur Europe 1, parce que je vous retrouve pour le 18-20 Europe Soir.